Annie. Deuxième partie, chapitre 8. Il avait lu sans s'interrompre, sans respirer, courant de ligne en ligne. Mais dès les premières, au moment où il commençait à comprendre, il avait été obligé de poser sur son bureau la feuille de papier, tant elle tremblait entre ses doigts. C'était un coup d'assommoir qui l'écrasait. Après quelques minutes de prostration, il recommença sa lecture, lentement cette fois, mot à mot. « Je donne et lègue à M. Valentin Sixte la propriété de tous les biens, meubles et immeubles que je posséderai au jour de mon décès. » Évidemment, ce testament était celui que son frère avait déposé au notaire Rébénac et ensuite repris. La date le disait, sans contestation possible. Pas d'hésitation, pas de doute sur ce point. À un certain moment, celui qu'indiquait la date de ce testament, son frère avait voulu que le capitaine fût son légataire universel. Et il avait donné un corps à sa volonté, ce papier écrit de sa main. Mais le voulait-il encore quelques mois plus tard? Et le fait seul d'avoir repris son testament au notaire n'indiquait-il pas un changement de volonté? Il avait un but en reprenant ce testament. Lequel? Le supprimer? Le modifier? Chercher en dehors de ces deux hypothèses paraissait inutile. C'était à l'une ou l'autre qu'on devait s'arrêter. Mais laquelle avait la vraisemblance pour elle? La raison, la justice et la réunion de diverses conditions, d'où pouvait jaillir un témoignage ou une preuve? Il ne le voyait pas en ce moment. Troublé, bouleversé, jeté hors de soi, comme il l'était. Et machinalement, sans trop savoir ce qu'il faisait, il examinait le testament et le relisait par passage, au hasard, comme si son écriture ou sa rédaction devait lui donner une indication qu'il pourrait suivre. Mais aucune lumière ne se faisait dans son esprit, qui allait d'une idée à une autre, sans s'arrêter à celle-ci plutôt qu'à celle-là, et revenait toujours au même point d'interrogation. Pourquoi, après avoir confié son testament à Rébénac, son frère l'avait-il repris? Et pourquoi, après l'avoir repris, ne l'avait-il pas détruit ou modifié? Le temps marcha et la cloche du dîner vint le surprendre avant qu'il eût trouvé une réponse aux questions qui se heurtaient dans sa tête. Il fallait descendre. Il se composa un maintien pour que ni sa femme ni sa fille ne vissent son trouble, car, malgré son désarroi d'idées, il avait très nettement conscience qu'il ne devait leur parler de rien avant d'avoir une explication à leur donner. Il remit donc le testament dans son tiroir, mais en le cachant entre les feuillets d'un acte notarié, et il se rendit à la salle à manger, où sa femme et sa fille l'attendaient, surprise de son retard. C'était en effet l'habitude qu'il arrivât toujours le premier à table, autant parce que, depuis son installation à Ourteau, il avait retrouvé son bel appétit de la 20e année, que parce que les heures des repas étaient pour lui les plus agréables de la journée, celles de la causerie et de l'épanchement dans l'intimité du bien-être. « J'allais monter te chercher, » dit Annie. « Tu n'as pas faim aujourd'hui ?» demanda Madame Barinck.
« Pourquoi n'aurais-je pas faim ?»«
Ce serait la question que je t'adresserais. » Précisément parce qu'il voulait paraître à son aise et tel qu'il était tous les jours, il trahit plusieurs fois son trouble et sa préoccupation.
« Décidément, tu as quelque chose, » dit Madame Barinck.
« Où vois-tu cela ? »
« Est-ce vrai, Annie ?» demanda la mère en invoquant comme toujours le témoignage de sa fille. Au lieu de répondre, Annie montra d'un coup d'œil les domestiques qui servaient à table, et Madame Barinck comprit que, si son mari avait vraiment quelque chose comme elle croyait, il ne parlerait pas devant eux.
Mais lorsqu'en quittant la table,
on alla s'asseoir dans le jardin sous un berceau de rosiers, où tous les soirs on avait coutume de prendre le frais en regardant le spectacle toujours nouveau du soleil couchant avec ses effets de lumière et d'ombre sur les sommets lointains, elle revint à son idée. « Parleras-tu maintenant que personne n'est là pour nous entendre ?
Que veux-tu que je te dise ?
Ce qui te préoccupe est assombri.
Rien ne me préoccupe.
Alors, pourquoi n'es-tu pas aujourd'hui comme tous les jours ?
Ah, il me semble que je suis comme tous les jours.
Eh bien, il me semble le contraire. Tu n'as pas mangé, et il y avait des moments où tu regardais dans le vide d'une façon qui en disait long.
Quand, pendant 20 ans, on a vécu en face l'un de l'autre, on arrive à se connaître, et les yeux apprennent à lire.
En te regardant à table ce soir, je retrouvais en toi la même expression inquiète que tu avais si souvent pendant les premières années de notre mariage, quand tu te débattais contre Sauval, sans savoir si le lendemain il ne t'étranglerait pas tout à fait.
T'imagines-tu que je vais penser à Sauval maintenant ?
Non, mais il n'en est pas moins vrai que j'ai revu en toi aujourd'hui l'expression angoissée que tu montrais quand tu te sentais perdu et que tu essayais de me cacher tes craintes. Voilà pourquoi je te demande ce que tu as. »
Il ne pouvait pourtant pas répondre franchement. « Si tu n'as pas mal vu, dit-il, c'est mon expression de physionomie qui a été trompeuse.
Puisque tu ne veux pas répondre, c'est moi qui vais te dire d'où vient ton souci. Nous verrons bien si tu te décideras à parler. Tu es inquiet parce que tu reconnais que tes transformations ne donnent pas ce que tu attendais d'elles et que tu as peur de marcher à ta ruine.
Il y a longtemps que je m'en doute.
Est-ce vrai ?
Ah, cela non, par exemple.
Tu n'es pas en perte ?
Pas le moins du monde. Les résultats que j'attendais sont dépassés et de beaucoup. Ma comptabilité est là pour le prouver.
Je ne suis qu'au début, et pourtant je puis affirmer, preuves en main, que les chiffres que je vous ai donnés, c'est-à-dire un produit de 300 000 francs par an, sera facilement atteint le jour où toutes les prairies seront établies et en plein rapport. Ce que j'ai réalisé jusqu'à ce jour le démontre sans doute et sans contestation possible, par des chiffres clairs comme le jour, non en théorie, mais en pratique. Pour cela, il ne faudrait que 3 ans, si je les avais.
« Comment, si tu les avais ? »
s'écria Madame Varinck. Il voulut corriger, expliquer ce mot maladroit qui avait échappé à sa préoccupation.
« Qui est sûr du lendemain ?
Tu te crois malade ? » dit-elle.
« Qu'as-tu ? De quoi souffres-tu ? Pourquoi n'as-tu pas appelé le médecin ? » ?»«
Je ne souffre pas. Je ne suis pas malade. »
« Alors, pourquoi t'inquiètes-tu ? C'est la plus grave des maladies de s'imaginer qu'on est malade quand on ne l'est pas. »
« Comment ? Tu nous fais habiter la campagne, parce que tu dois y trouver la santé et le repos, y vivre d'une vie raisonnable, comme tu dis. Et nous n'y sommes pas installés que te voilà tourmenté, sombre, hors de toi, sous le coup de soucis et de malaise que tu ne veux pas, que tu ne peux pas expliquer.
Depuis que nous sommes mariés, tu m'as, pour notre malheur, habitué à ces mines de désespérés. Mais au moins, je les comprenais et je m'associais à toi. Quand tu luttais contre Sauval, quand tu peinais chez Chaberton, je ne pouvais t'en vouloir de n'être pas gai. Tu aurais eu le droit, si je t'avais fait des reproches, de me parler de tes inquiétudes du lendemain. Mais maintenant que tu reconnais toi-même que tes affaires sont dans une voie superbe, quand nous sommes débarrassés de tous nos tracas, de toutes nos humiliations, quand nous avons repris notre rang, quand nous n'avons plus qu'à nous laisser vivre, quand le présent est tranquille et l'avenir assuré, enfin, quand nous n'avons qu'à jouir de la fortune, je trouve absurde de s'attrister sans raison. Parce qu'on n'est pas sûr du lendemain. Mais qui peut en être sûr, si ce n'est nous ? Il n'y a qu'un moyen de le compromettre, celui que tu prends précisément, te rendre malade. Que deviendrions-nous si tu nous manquais ? Que deviendraient tes affaires, tes transformations ? Ce serait la ruine.
Et, tu sais, je serais incapable de supporter ce dernier coup. Je ne me fais pas d'illusions sur mon propre compte. Je suis une femme usée par les chagrins, les duretés de la vie, la révolte contre les injustices du sort dont nous avons été si longtemps victimes. Je ne supporterai pas de nouvelles secousses. Tant que ça ira bien, j'irai moi-même. Le jour où ça irait mal, je ne résisterai pas à de nouvelles luttes. Tâche donc de ne pas me tourmenter en te tourmentant toi-même, alors surtout que tu n'as pas de raison pour cela. » Ce qu'il avait dit, il le répéta. Il ne se croyait pas, il ne se sentait pas malade. Il avait la certitude de ne pas l'être. En tout cas, il était dans cet état d'agitation désordonnée qui ne lui permit pas de s'endormir. Si, sous le coup de la surprise, il n'avait pas pu arrêter son parti à l'égard de ce testament, il fallait qu'il le prît maintenant et ne restât pas indéfiniment dans une lâche et misérable indécision. Plus d'un, à sa place sans doute, se serait débarrassé de ses hésitations d'une façon aussi simple que radicale. On ne connaissait pas l'existence de ce testament. Pas un seul témoin n'avait assisté à sa découverte. Tout le monde maintenant était habitué à voir l'héritier naturel en possession de cette fortune. Une allumette, un peu de fumée, un petit tas de cendres, et tout était dit. Personne ne saurait jamais que le capitaine Sixte avait été le légataire de Gaston. Personne, excepté celui qui aurait brûlé ce papier, et cela suffisait pour qu'il n'admît ce moyen si simple que de la part d'une autre main que la sienne. Dans ses nombreux procès, il avait vu son adversaire se servir, toutes les fois que la chose était possible, d'armes déloyales, et ne le battre que par l'emploi de la fraude, du mensonge, de faux, de pièces falsifiées ou supprimées. Jamais il n'avait consenti à le suivre sur ce terrain, et s'il était ruiné, s'il perdait, son honneur était sauf. Pendant 20 années, ce témoignage que sa conscience lui rendait avait été son soutien. Mauvais commerçant, honnête homme. Et l'honnête homme qu'il avait été, qu'il voulait toujours être, ne pouvait brûler ce testament que s'il obtenait la preuve que son frère ne l'avait repris à Rébénac que parce qu'il n'était plus l'expression de sa volonté. Qui dit testament, dit acte de dernière volonté. Cela est si vrai que les deux mots sont synonymes dans la langue courante. Incontestablement, à un moment donné, Gaston avait voulu que le capitaine fût son légataire universel. Mais le voulait-il encore, quelque temps avant de mourir? Toute la question était là. S'il le voulait, ce testament était bien l'acte de sa dernière volonté. Et alors, on devait l'exécuter. Si, au contraire, il ne le voulait plus, ce testament n'était pas cet acte suprême. Et, conséquemment, il n'avait d'autre valeur que celle d'un brouillon, d'un chiffon de papier qu'on jette au panier, où il doit rester lettre morte, sans qu'un hasard puisse lui rendre la vie. On aurait découvert ce testament dans les papiers de Gaston à l'inventaire, sans qu'il eût jamais quitté le tiroir dans lequel il aurait été enfermé au moment même de sa confection, que la question d'intention ne se serait pas présentée à l'esprit. On trouvait un testament, et les présomptions étaient qu'il exprimait la volonté du testateur, aussi bien à la date du 11 novembre 1884 qu'au moment même de la mort, puisqu'aucun autre testament ne modifiait ou ne détruisait celui-là. Le 11 novembre, Gaston avait voulu que le capitaine héritât de sa fortune, et il le voulait encore en mourant. Mais ce n'était pas du tout de cette façon que les choses s'étaient passées. Et, la situation étant toute différente, les présomptions basées sur ce raisonnement ne lui étaient nullement applicables. ce testament, fait à cette date du 11 novembre, alors que Gaston avait, il fallait l'admettre, de bonnes raisons pour préférer à sa famille un étranger et le choisir comme légataire universel, avait été déposé chez Rébénac, où il était resté plusieurs années. Puis, un jour, ce dépôt avait été repris pour de bonnes raisons aussi, sans aucun doute, car on ne retire pas son testament à un notaire en qui l'on a confiance. Et Gaston avait pleine confiance en Rébénac, pour rien ou pour le plaisir de le relire. S'il était logique de supposer que les bonnes raisons qui avaient dicté le choix du 11 novembre s'appuyaient sur la conviction où se trouvait Gaston à ce moment que le capitaine était son fils, n'était-il pas tout aussi logique d'admettre que celle, non moins bonne, qui plusieurs années après avait fait reprendre ce testament, reposait sur des doutes graves relatifs à cette paternité? Dans la lucidité de l'insomnie, tout ce que lui avait dit Rébénac le jour de l'enterrement et, plus tard, toutes les paroles qui s'étaient échangées pendant l'inventaire, entre le notaire, le juge de paix et le greffier, lui revinrent avec netteté et précision pour prouver l'existence de ses doutes et démontrer que le testament avait été repris pour être détruit. N'était-il pas significatif, ces chagrins qui avaient attristé les dernières années de Gaston, et son inquiétude, sa méfiance, constatée par Rébénac, ne l'était-elle pas aussi? Pour le notaire, il n'y avait pas eu d'hésitation. Chagrins et inquiétudes qui, selon ses expressions mêmes, avaient empoisonné la fin de sa vie, provenaient des doutes qui portaient sur la question de savoir s'il était ou n'était pas le père du capitaine. Si, pour presque tout le monde, sa paternité était certaine, pour lui, elle ne l'était pas, puisque ses doutes l'avaient empêché de reconnaître celui qu'on lui donnait pour fils et que lui-même n'acceptait pas comme tel. Incontestablement, Gaston avait passé par ces états divers, ballotté entre les extrêmes, un jour croyant à sa paternité, le lendemain n'y croyant pas. Malgré tout, attaché à cet enfant qu'il avait élevé et qui d'ailleurs possédait des qualités réelles pour lesquelles on pouvait très bien l'aimer, en dehors de tout sentiment paternel. En partant de ce point de vue, il était facile de se représenter comment les choses s'étaient passées et les phases que les sentiments de Gaston avaient suivies. Un jour, convaincu que le capitaine était son fils, il avait fait son testament pour le déposer à Rébénac. Il y avait certitude chez lui, et dès lors son devoir l'obligeait à oublier qu'il avait un frère, pour ne voir que son fils. C'est la loi civile qui veut que l'enfant illégitime ne soit qu'un demi-enfant, et en cela, elle obéit à des considérations qui n'ont d'autorité qu'au point de vue social. Mais la loi naturelle se détermine par d'autres raisons plus humaines. Pour elle, un fils, légitime ou non, est un fils, et un frère n'est qu'un frère. En vertu de ce principe, le frère avait été sacrifié au fils, et cela était parfaitement juste. Mais plus tard, un mois avant de mourir, cette foi en sa paternité ébranlée pour des raisons qui restaient à découvrir, puis détruite, le fils, qui n'était plus qu'un enfant auquel on s'était attaché à tort, avait cédé la première place au frère, et le testament avait été repris chez Rébénac. Sans doute, ce n'était là qu'une hypothèse, mais ce qui lui donnait une grande force, c'était l'endroit même où le testament avait été découvert. Non dans le tiroir des papiers de famille, non dans celui qui renfermait les lettres de Léontine Dufourcq et du capitaine, mais dans un autre où ne se trouvaient que des pièces à peu près insignifiantes. Est-ce que, si Gaston l'avait considéré comme l'acte de sa dernière volonté, il l'aurait ainsi mis au rancard? Au contraire, après l'avoir retiré de chez Rébénac, ne l'aurait-il pas soigneusement serré? Pour être subtil, ce raisonnement n'en reposait pas moins sur la vraisemblance, en même temps que sur la connaissance du caractère de Gaston, qui ne faisait rien à la légère. À la vérité, on pouvait se demander, et on devait même se demander pourquoi, l'ayant pris pour le détruire ou le modifier, on le retrouvait intact, tel qu'il avait été rédigé dans sa forme primitive. Mais cette question portait avec elle sa réponse, aussi simple que logique. Pour le détruire, il avait attendu d'en avoir fait un autre, et vraisemblablement, le jour où il aurait remis au notaire le second testament, expression de sa volonté, il aurait brûlé ou déchiré le premier. Il ne l'avait pas fait, cela était certain, puisque ce premier testament existait. Mais ce qui était non moins certain, c'était qu'il avait voulu le faire. Or, lorsqu'il s'agit de testament, c'est l'intention du testateur qui prime tout, et cette intention se manifestait clairement, aussi bien par le retrait du testament de chez le notaire que par le peu de soin accordé à ce papier, insignifiant désormais. Lorsque nous héritons d'un parent qui nous est proche, d'un père, d'un frère, ce n'est pas seulement à sa fortune que nous succédons, c'est aussi à ses intentions, et c'est par là surtout que nous le continuons. Serait-ce continuer Gaston? Serait-ce suivre ses intentions que d'accepter comme valable ce testament? De bonne foi et sa conscience sincèrement interrogée, il ne le croyait pas.